Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Bonsoir à tous. Top départ pour la campagne présidentielle au Brésil. Les deux grands candidats, le sortant Jair Bolsonaro et l'ancien président Lula, sont officiellement entrés dans la course aujourd'hui. Campagne sous tension, certains observateurs craignent un scénario similaire à la dernière présidentielle américaine. Trump avait contesté les résultats et ça s'est fini par l'assaut du Capitole. Un observateur de la vie politique brésilienne est justement avec nous ce soir. Rendez-vous à 18h15. Et puis, escale également dans l'un des nombreux festivals du mois d'août. Le Cabaret Vert revient comme une balle de flipper cette année avec Stromae, Orelsan, les Pixies, Skipknot. Au programme, il y a même des BD à lire et des films à regarder. Ça sera dans la deuxième partie d'Europe Soir. Sans oublier entre-temps vos rendez-vous, le débat, le choix de Mola et puis l'information évidemment. Ça c'est tout de suite. Bienvenue à tous. Europe 1, il est 18h. Les orages s'annoncent très violents ce soir sur les rives de la mer Méditerranée. 8 départements en vigilance orange. Alès, par exemple, s'attend à des inondations et prend des précautions maximales, vous l'entendrez. La crise des urgences et les syndicats de l'hôpital de Laval, où des services sont partiellement fermés, saisissent la justice, un signalement pour mise en danger de la vie d'autrui. Et puis, décidément, les averses reprennent pour Johnny Depp. Il va réaliser un nouveau film, un second long métrage sur Modigliani. Marie Jiquel nous en dit plus tout à l'heure. La tendance météo, Anthony Kazmarek.
Et attention, l'épisode pluvieux-orageux va durer sans doute jusqu'à demain soir près de la Méditerranée. Et sur tout le pays, demain, nous aurons, comme ce soir en Ile-de-France, des averses orageuses localement virulentes.
On vous retrouve tout à l'heure, Anthony, pour une météo complète. Mais avant de développer tous ces titres, récit d'un braquage franchement pas discret la nuit dernière à Paris, à quelques pas de l'Élysée. Un individu arrêté depuis a foncé avec sa voiture sur la boutique de luxe Valentino de la rue Saint-Honoré. Il a volé des sacs de grande valeur, mais William Molinier, le plan est rapidement tombé à l'eau.
Oui, littéralement, parce que le braqueur qui a pris la fuite a perdu le contrôle de son véhicule, place de la Concorde, avant de se déshabiller et de plonger dans la Seine au niveau de l'Assemblée nationale. Dans leur rapport d'intervention que nous nous sommes procurés, les policiers écrivent que le suspect leur adresse alors des doigts d'honneur tout en nageant sur le dos. Bravache, il vaut s'y faire, je cite, vous ne m'aurez pas. Sauf qu'à arriver à mi-chemin entre les deux berges, le fuyard montre des signes de fatigue. Un des policiers se jette à l'eau avec une bouée pour lui venir en aide. Finalement, il sera remonté par les pompiers sur le ponton, puis interpellé. Il est alors 2h20 du matin. Dans la voiture restée au sec, les policiers retrouvent l'essentiel du butin. Plusieurs sacs à main, des chaussures talons aiguilles qui provenaient de la boutique de luxe Valentino dont la vitrine a été éventrée. Selon ses déclarations, le suspect est âgé de 24 ans, originaire du Val-de-Marne. Il a été dépisté positif à l'alcool. L'enquête a été confiée au premier district de police judiciaire de la capitale, notamment pour rechercher d'éventuels complices.
Le braqueur de Valentino était un guignolo. Merci William Molinier. Une importante saisie de fentanyl dans la région de Dax la semaine dernière. Les douaniers ont mis la main sur plus de 8 kilos de cet opiacé décrit comme 50 fois plus puissant que l'héroïne. Vendu sous forme de sachet, le fentanyl fait des ravages aux États-Unis notamment. Les douaniers de Dax sont félicités ce soir par le ministère de l'économie et des finances. Dans l'actualité également ce soir, cet entretien entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, c'était ce matin. Les présidents français et ukrainiens ont parlé pendant 1h20 et ont notamment abordé la centrale nucléaire de Zaporijjia, régulièrement ciblée par des frappes ces dernières semaines. Emmanuel Macron appelle au retrait des forces russes. Nous revenons plus en détail sur cette information dans le journal de 19h. Emmanuel Macron y aura droit, tiens, il est au fort de Brégançon et le Var est parmi les 8 départements en vigilance orange aux violents orages attendus ce soir et toute la nuit sur l'arc méditerranéen. Le Gard en vigilance également. À Alès, où les sols sont très secs, on craint des inondations. Christophe Rivinck, premier adjoint à la mairie et en charge des cellules de crise au niveau de l'agglomération, se prépare à toute éventualité.
Nous avons mis en place des services et des moyens qui nous permettent d'anticiper un certain nombre de ces problématiques, notamment avec le traitement de la rivière, le Gardon, qui a été nettoyé, qui a été creusé pour permettre le passage, ce type d'orage. Donc effectivement, il y a eu des travaux et puis il y a aussi beaucoup de sensibilisation auprès de la population, beaucoup de formation auprès des enfants. On met les services en alerte, on commence à s'assurer que tout le monde est bien présent et pourra être mobilisé en cas de besoin. On nettoie les avaloirs, on gère les cours d'eau, on gère les parkings, les centres de loisirs pour faire en sorte qu'effectivement aucun enfant ne puisse être présent dans des lieux en danger. Et puis on se prépare en observant les prévisions à pouvoir éventuellement lancer soit une alerte à la population par le téléphone, et puis soit la police municipale ou les services hydrauliques, on se met en position pour éventuellement pouvoir intervenir si crise il y a.
Christophe Rivinck, premier adjoint à la mairie d'Alès, il répondait au micro Europe 1 d'Alexandra Gégy. Météo complète à retrouver juste après le journal. Tiens, des arrestations après la vague d'incendies subies par la France cet été. Le ministère de l'Intérieur avance le chiffre de 26 pyromanes présumés arrêtés depuis le début de la saison. 22 enquêtes sont en cours. Actuellement, 4 personnes ont été condamnées. 6 autres sont en détention provisoire. Et puis à Colmar, le suspect dans le meurtre d'un Afghan de 27 ans dimanche est toujours en fuite. Nous faisons le point dans le journal de 19h. Ils saisissent la justice. 2 syndicats de l'hôpital de Laval en Mayenne ont fait un signalement devant le procureur pour mise en danger de la vie d'autrui. Façon pour eux d'alerter sur la situation dans les services d'urgence. Plusieurs sont partiellement fermés à Laval. Charles Guyard dans la région.
Bienvenue au centre hospitalier de Laval.
Derrière l'ambiance plutôt apaisante de son message d'accueil, l'établissement public mayennais est en fait sur le pied de guerre.
Merci de patienter.
De fait, ici, comme un peu partout en France, il faut s'armer de patience avant d'être pris en charge. En cause, sous-effectif chronique, manque de lits et urgence au ralenti, tout ce que dénonce l'intersyndicale Force Ouvrière CGT, Maxime Lebigot.
Et donc là, on se retrouve un été plus que catastrophique parce qu'on a fermé 27 lits de fermés de soins de suite à Laval, c'est 50% des soins de suite qui sont fermés. Les urgences de l'hôpital de Laval subissent des fermetures nocturnes, 9 nuits là au mois d'août, une dizaine au mois de juillet et probablement la même chose en septembre.
Face à cette situation, l'intersyndicale a décidé de frapper un grand coup en déposant vendredi un signalement auprès du procureur de la République pour mise en danger de la vie d'autrui. Une démarche pour alerter les pouvoirs publics mais aussi et surtout l'opinion.
Notre signalement, c'est vraiment pas contre la direction de l'hôpital de Laval parce qu'on sait bien que les directions d'hôpitaux sont pieds et mains liés envers l'État. Ce signalement-là, c'est les prémices d'une probable mobilisation à la rentrée de septembre. On nous applaudit pendant toute la crise Covid, mais maintenant, il faut que la population soit derrière nous pour sauver le système de santé qui soit digne de ce nom.
Sollicité, la direction de l'hôpital de Laval n'a pas donné suite. Selon nos informations, une initiative similaire au CHU de Nantes doit être menée dans les prochains jours.
Charles Guyard, correspondant d'Europe 1 dans l'ouest de la France. Restez avec nous dans quelques instants. Nous allons parler crédit immobilier. Il est de plus en plus difficile d'obtenir un prêt. Explication dans quelques instants sur Europe 1. Restez avec nous.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
La suite du journal sur Europe 1. Malgré l'inflation, vous n'avez peut-être pas renoncé à votre projet immobilier. Vous savez, ce superbe 3 pièces en plein centre-ville ou cette jolie maison de campagne. Eh bien, Geoffrey Branger vous le conseille. Bétonnez votre dossier. Geoffrey, les conditions pour obtenir un prêt sont de plus en plus contraignantes.
Oui, d'après une étude de l'AFIB, l'Association française des intermédiaires en banque assurance, environ une demande de prêt immobilier sur deux est refusée aujourd'hui. La cause, l'inflation galopante de ces derniers mois qui fait augmenter les taux d'emprunt. Un mécanisme un peu technique que détaille Jérôme Cusano, le président de cette association.
Il faut bien comprendre que dans un crédit, il y a le taux de la banque, mais auquel on doit bien sûr ajouter des frais annexes. Frais de dossier, frais de courtage, assurance emprunteur, prise de garantie, etc. Et tout ça s'ajoute sur le taux annuel effectif global. C'est vraiment le taux réel et c'est ce TAEG qui est confronté au taux de l'usure et qui bloque.
Ce taux d'usure qui pose problème. Vous savez, le taux d'usure, c'est le taux maximal que les banques n'ont pas le droit de dépasser quand elles prêtent de l'argent. Eh bien, l'association propose d'en modifier le calcul afin que les conditions dans lesquelles les banques peuvent prêter aux particuliers soient assouplies. En clair, que plus de dossiers de prêts immobiliers soient acceptés. L'objectif, faire valider 6 demandes d'emprunt sur 10, comme c'était le cas il y a encore quelques mois, et ainsi rendre le crédit à nouveau très accessible.
Geoffrey Branger du service économie d'Europe 1. L'actualité économique, c'est aussi les prix du carburant toujours à la baisse. Le gazole se vendait la semaine dernière aux alentours d'1,80€ le litre en moyenne, en baisse de 4 centimes. Le super samplon 95 est vendu 1,77€ le litre, en baisse de plus de 5 centimes. À l'étranger, en plus bref, un soldat franco-israélien est mort en Cisjordanie occupée hier soir. Il avait 20 ans, il a été touché par un tir ami, un tir de l'armée israélienne. près de la ville de Tulkarim. Le procès de Benjamin Mendy, accusé de viols multiples, est suspendu depuis la mi-journée. Il ne reprendra que demain à Chester, au Royaume-Uni. Les audiences ont dû être arrêtées pour des problèmes de son. On n'entendait pas les témoignages de la première plaignante. Et puis, les craintes d'une catastrophe écologique renforcée dans le fleuve Oder traversant l'Allemagne et la Pologne. Les pompiers polonais disent avoir repêché 100 tonnes de poissons morts depuis vendredi. Le Premier ministre polonais suggérait la semaine dernière que d'importantes quantités de déchets chimiques avaient pu être versées dans le fleuve. Des échantillons d'eau sont actuellement examinés dans différents laboratoires européens. Le Sud est-il encore le Sud sans le chant des cigales? Ce son si pratique pour nous situer à la radio devient rare cet été. Oui, les cigales se taisent en ce moment dans le Sud en raison du climat. Explication de Nina Pavant en promenade dans les rues anormalement silencieuses de Provence.
D'ordinaire, dans les rues paisibles d'Aiguille, près d'Aix-en-Provence, c'est le chant des cigales qui rythme l'après-midi. Natacha, assise à l'ombre de sa terrasse, cette année, constate le silence.
Là, elles sont absentes, on ne les entend plus du tout. Plus de chants de cigales, ça nous manque.
Pour Jean-Baptiste, quand les cigales ne chantent plus, c'est la Provence qui s'éteint.
Les villages meurent, il n'y a plus rien. Il y a la chaleur qui nous tue au fur et à mesure, et je pense que les animaux partent au fur et à mesure.
C'est la chaleur qui impacte les cigales. Leur saison amoureuse était en avance cette année, explique Gérard Philippi, spécialiste des insectes pour Écotonia.
On a une canicule qui est très importante, donc avec un printemps qui a été précoce, où les cigales sont apparues en grande quantité sur le mois de juin et juillet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que leur cycle de vie a démarré beaucoup plus tôt. Et elles ont vécu leur cycle de vie. Et c'est normal qu'au mois d'août, les populations de cigales sont moins importantes que d'habitude.
Les pics de chaleur aussi ont un effet direct sur ces insectes.
Il se trouve qu'à une certaine température, effectivement, elles ont un problème de régulation. Et donc, ces températures excessives peuvent effectivement avoir une incidence sur le champ des cigales.
En tout cas, ces espèces ne sont pas en danger. Et elles commencent à s'installer plus au nord, vers la vallée du Rhône, à la faveur du climat plus doux. Aiguille, Nina Pavant, Europe 1.
Les cigales rechanteront-elles un jour dans le sud? C'est presque un titre de film. Tiens, on parle justement de cinéma maintenant avec le retour de Johnny Depp, désormais débarrassé, en tout cas pour le moment, de son procès avec son ex-compagne Amber Heard. Il repasse derrière la caméra, il va réaliser un film 25 ans après The Brave, son seul long métrage à ce jour. Bonsoir Marie Jiquel.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous.
Difficile de ne pas y voir une projection de sa propre vie. Il va raconter l'histoire d'un personnage étonnant.
Oui, une sorte de thérapie en s'emparant du peintre Modigliani, puisque Johnny Depp a déclaré au Hollywood Reporter, je cite, « Sa vie a été remplie de grandes épreuves, mais a abouti au triomphe. Suivez mon regard, Raphaël. » Alors pour resituer, petit point, histoire de l'art. Modigliani, sa signature, ce sont ses portraits, au visage, au corps étiré, les yeux parfois sans pupille.
Modigliani.
Johnny Depp ne réalisera pas un biopic classique, il s'inspirera d'une pièce de théâtre qui elle-même se concentre sur 48 heures de la vie de l'artiste italien. À cette époque, Modigliani est fauché et sa maîtresse va le remettre dans le droit chemin. Il se lance alors dans la composition d'un autoportrait. Alors Raphaël, on ne connaît pas encore le casting, mais dans cette pièce, il y a 6 rôles d'hommes et un seul de femme. Une chose est sûre, c'est qu'Al Pacino produira ce long métrage dont le tournage débute l'année prochaine. En Europe, bien sûr. Et enfin, Raphaël, il y avait déjà eu un film franco-américain sur Amadeo Modigliani avec Andy Garcia dans le rôle du maître et Elsa Silberstein dans celui de S'amuse. C'était il y a près de 20 ans.
Merci Marie Jiquel. Johnny Depp s'attaque donc à Modigliani. Le tournage commence l'année prochaine, hein, c'est
2023.
Ce que vous avez dit. Ouh là là, on n'est pas prêt de le voir, mais on l'attend avec impatience. Merci beaucoup Marie.
À la plage ou au bureau, retrouvez la météo. Avec les 250 hôtels Kyriade, partez à la découverte de nos régions sur kyriade.com.
La météo, Anthony Kazmarek. 8 départements du Sud face à de violents orages ce soir et toute la nuit même.
Oui, et ça va commencer ce soir. Épisode 1 sur le Tarn, l'Aveyron et l'Aude, actuellement concernés par des orages violents. Épisode 2 pour l'Hérault et pour le Gard dans le courant de la soirée, avec là aussi des orages violents, de fortes pluies jusqu'à 130 litres d'eau par mètre carré et sans doute des phénomènes venteux très violents, notamment vers le littoral. Épisode 3, ces orages vont se décaler vers le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et le Var dans le courant de la nuit et dans la matinée, avec là aussi sans doute de très forts cumuls de pluie et des orages très intenses. Et puis épisode 4, une nouvelle salve d'orages va arriver et va prendre le même chemin demain après-midi. Le Languedoc, la basse vallée du Rhône et à nouveau le Var jusqu'à la Côte d'Azur en soirée. Donc extrême prudence, vous êtes très nombreux en vacances dans cette zone. zone sur le reste du pays. Nous aurons demain à nouveau un régime d'averses orageuses, fréquentes surtout dans l'après-midi, mais peut-être un peu moins de la Champagne à l'Île-de-France et du centre-Val de Loire jusqu'au sud-ouest, où là, vous aurez sans doute un peu plus d'éclaircies qu'ailleurs. Les orages seront forts aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, la seule région épargnée par ce temps très instable. Ce sera la Corse, où il fera d'ailleurs 35 degrés demain à Ajaccio. Mais ailleurs, ce sera parfois frais pour la saison. Il fera 28 degrés à Perpignan, 27 à Lille et à Lyon, seulement 26 degrés à Paris et à Bordeaux, 25 à Nîmes, ça n'est pas arrivé depuis le 12 mai, une telle température à Nîmes, 23 à Nantes et à La Rochelle et 20 degrés pour Saint-Brieuc.
Merci Anthony Kaczmarek. Les premiers gros orages du mois d'août, c'est donc pour ce soir. Nouveau point météo tout à l'heure, vers 19h. À tout à l'heure, Anthony.
Europe 1. Le choix de Mola.
Allez, il pleut dehors, l'occasion de lire un bon livre. Il vous est recommandé ce soir par Stéphane Place. Il parcourt les bibliothèques de la librairie Mola à Bordeaux jusqu'à la fin du mois. Et son choix se penche aujourd'hui sur le second tome des Mémoires de Catherine Ney, bien connu ici à Europe 1.
Oui, le premier tome des souvenirs de Catherine Ney, grande voix d'Europe 1, plume acérée, toujours très cash aux formules directes et savoureuses, avait déjà remporté un immense succès. Voici donc le second volume, la suite des mémoires d'une journaliste qui observe la scène politique française depuis la fin des années 60, aux premières loges. Là, dans ce second opus, c'est une immersion formidable dans cette période qui va de l'élection de Jacques Chirac en 1995 à celle d'Emmanuel Macron en 2017. Pierre Coutel, libraire chez Mola.
Un sens du portrait, du croquis, qui est absolument incroyable. On sent qu'elle a besoin de personnages flamboyants et qu'elle trouve que la politique et chroniquer la politique, ça n'a d'intérêt et ça n'a de sens que si on a affaire à des gens, même si on n'est pas d'accord avec eux, qui ont une vision d'abord et puis surtout qui ont une façon d'exprimer cette vision qui fait qu'il va se passer quelque chose. Quel que soit le point de vue politique duquel on se place, en fait, on est passionné par ce livre-là, même si on ne peut ne pas être d'accord, parce qu'elle a une façon de décrire les choses qui fait que c'est vraiment extrêmement réjouissant à lire.
Sarkozy, Hollande, Juppé, Seguin, Jospin et j'en passe, fragilités et forces de ces grands fauves politiques que Catherine Ney croque dans ses pages avec un mordant inimitable, révélant les coulisses où se mêlent souvent les ambitions de pouvoir et les événements intimes, les influences beaucoup plus personnelles, comme elle le raconte au micro européen de Charles Villeneuve, par exemple Bernadette Chirac, que son mari n'écoutait pas, et pourtant.
Une femme très drôle, qui pouvait être très méchante, très caractérielle aussi parce que lunatique, mais qui s'est dévouée corps et âme à son mari, qui l'a trompé beaucoup, ce dont elle souffrait. Elle lui a été indispensable. Et épouser ce type qui n'était jamais là, qui lui a fait ce cadeau de la laisser se faire élire comme conseillère en Corrèze. C'est là où elle est devenue une femme politique. Elle qui était snob, elle entrait dans les cours de ferme, elle parlait à tout le monde et elle savait ce qui se passait dans le pays. Et elle savait que le Front National montait et son mari ne l'écoutait pas. Sa fille voulait l'écarter du jeu, trouvait qu'elle faisait mémère et qu'elle ringardisait l'image de son père. Elle, au contraire, mais elle travaillait et ça a été d'autant plus flagrant après la dissolution, c'est qu'elle, elle est devenue Madame Pièce Jaune. Et elle était devenue, mais très très populaire. D'ailleurs, elle me disait, vous savez, les Français croient que Jacques Chirac, c'est le mari de Madame Pièce Jaune. Elle me faisait comprendre que grâce à ça, Chirac, il était populaire. Et elle a œuvré à sa réélection. C'est une grande femme politique.
Tu le sais bien, le temps passe. C'était la phrase que répétait à Catherine Ney son mari, Albin Chalandon, disparu il y a 2 ans. Une phrase devenue le titre de ce livre que signe une journaliste, et nous sommes bien placés pour le savoir ici, toujours curieuse et passionnée par son métier.
Merci Stéphane Place, merci également Catherine Ney. Dans quelques instants, on part au Brésil, la campagne officielle en vue de la présidentielle. Le premier tour, c'est dans 50 jours, a commencé aujourd'hui avec 2 principaux candidats, l'actuel président Jair Bolsonaro contre l'ancien président Lula. On en parle avec un expert, à tout de suite sur Europe.